Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche de la parole, c'est aussi le dimanche de clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Évidemment, il y a un lien entre ces deux événements, puisque c'est la parole de Dieu et singulièrement l'Évangile qui unit les chrétiens. Mais ça n'a pas toujours été le cas entre les chrétiens. Il y a eu une absence de parole, et dès qu'il y a absence de parole, eh bien il y a quelque chose de mortifère qui naît dans le cœur de l'homme. Bien sûr, nous pensons au massacre de la Saint-Barthélemy avec l'assassinat de l'amiral de Coligny en 1572. Et ce qui est intéressant, je me suis renseigné, quelle avait été la réaction du pape alors. À Rome, justement, la nouvelle du massacre arrive le 2 septembre, avant d'être définitivement confirmée. Le pape Grégoire XIII ne cache plus sa satisfaction. Avant même que la nouvelle ne soit officiellement confirmée, il ordonne des feux de joie et compare le massacre parisien à la bataille de Lépante de l'année précédente. Cette analogie entre la lutte contre les Turcs et les protestants souligne le caractère militant de l'Église. Plusieurs jours durant, on dresse des arcs de triomphe dans la vie éternelle, on organise des prières, des processions. La plus importante est celle du 8 septembre. Le pape, accompagné de nombreux clercs, parcourt la ville et rend grâce à Dieu. Le même jour, une deuxième procession avec des enfants, avec des branches d'olivier à la main. Puis il décrète un jubilé d'action de grâce. Et on dit que ce cher pape Grégoire XIII, fraîchement élu, il est élu en 1572, l'année du massacre de la Saint-Barthélemy, disait « Chaque goutte de sang protestant versé bénit Dieu ». On a fait des progrès depuis ce temps-là. Ça, c'est fort heureux, parce que pour nous, c'était une époque, évidemment, mais vous voyez la radicalisation, la violence au nom d'une religion n'est pas l'apanage d'une seule religion. Nous avons aussi connu ça. Et en lisant ces quelques livres, je me suis dit, qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué une parole entre protestants et catholiques. Il a manqué une parole entre frères en Christ. Et ça vous rappelle, il y a des frères aussi, au tout début de la Bible, qui ne se sont pas parlé, et ça s'est mal terminé. Caïn et Abel. Caïn conduit Abel dans les champs, il dit quelque chose, mais on ne sait pas, l'Écriture ne mentionne pas, il dit quelque chose, il se jette sur lui, il le tue. L'absence de parole est mortifère. L'absence de parole est mortifère. Et c'est heureux de voir, je m'en suis rendu compte là, en relisant la parole de Dieu, c'est à des frères que le Seigneur adresse une parole pour les appeler à le suivre. Là où il y avait eu absence de parole, Caïn et Abel, et puis là, on voit au contraire le verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui s'adresse à des fratries, Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean. C'est-à-dire qu'il met une unité, il met une vie possible, il les appelle à le suivre, parce qu'il répond par sa parole à une pierre d'attente qui sommeillait dans le cœur de ces hommes. Je trouve que nous avons un déficit de parole. Nous sommes beaucoup dans une culture de l'image. Mais nous avons un déficit de parole, nous chrétiens singulièrement, dans l'expression de notre foi. Le fait que la foi chrétienne ne se transmette pas, moins en tout cas, c'est en partie dû au fait que dans les familles, on ne dit pas ce en quoi on croit. Dans ma famille, par exemple, une famille de paroissiens lambda, j'allais dire, voilà, qui, mais jamais ma famille, mes parents m'ont dit pourquoi ils croyaient en Jésus. Pourquoi est-ce que l'Évangile les touchait? On faisait à table de la géopolitique religieuse, mais c'est complètement différent. Hein, mais pourquoi est-ce que l'Évangile les faisait vivre? Et je trouve que c'est quelque chose qui est dommageable, cette absence de parole, parce que c'est une absence de transmission. Vous êtes, la plupart d'entre vous, parents, voire grands-parents, vous êtes dans une transmission. Et donc c'est capital que vous ayez une parole sur votre foi. Une parole qui dise votre attachement au Seigneur. Parce que, justement, c'est comme ça que la transmission se fait. Alors, je trouve ça très beau de voir que le Seigneur, avec cet appel des premiers apôtres, nous redit l'importance de la parole. Tout commence par une parole. Et Dieu dit, et cela fut. Et Dieu dit, et cela fut. Tout commence par une parole. Toute unité, toute communion implique une parole. Et on le voit bien même dans la vie professionnelle, l'absence de dialogue, de communication, voilà, c'est un terme plus actuel, engendre en fait des grandes difficultés, des conflits, etc., et des mails incendiaires, alors que si on avait pris le temps juste de s'asseoir et de dialoguer et de laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout, il y aurait eu certainement beaucoup plus de choses qui auraient avancé dans le monde professionnel. Et c'est intéressant de voir que dans la vie religieuse, nous avons nos difficultés de relation, comme tout un chacun, mais nous avons une pédagogie. Nous avons une pédagogie quant à l'échange de la parole. Nous avons un temps et un lieu pour parler, pour dire des choses. On a notre réunion de communauté le lundi matin, on a la rencontre avec le prieur, on a la rencontre avec les frères, et je trouve ça très beau de voir que la vie religieuse, précisément, offre cette pédagogie. C'est à la fois une maison et une école, une maison dans le sens d'une maison qui protège la parole, qui permet à chacun de dire, et puis une école, c'est-à-dire quelque chose qui enseigne la manière de le dire. Alors c'est donc très beau ce dimanche de la parole que le Seigneur nous donne, parce que ça nous permet de prendre conscience que plus que nous le croyons, mais bien plus que nous le croyons, notre parole est attendue. Votre parole, frères et sœurs bien-aimés, est attendue. Elle est attendue par nos contemporains, parce que si nous ne parlons pas, hein, les pierres crieront, vous connaissez ce passage de l'Écriture, voilà, si nous ne parlons pas, d'autres paroles arriveront aux oreilles, et singulièrement aux oreilles de la jeunesse. Donc, sortons de cette pudeur. Parfois, j'entends dire ça, je dis, j'ose pas trop dire ma foi par pudeur. J'entends ça, quelque part, c'est une fausse pudeur, une pudeur qui empêche qu'un bien advienne. Et singulièrement quand l'homme je vois dans d'autres religions a un rôle particulier dans l'expression de la parole sacrée, eh bien dit dans sa famille, au sein même de sa famille, ce en quoi il croit, il y a une puissance de la parole et une puissance de la foi qui se développe et une transmission qui est au rendez-vous. Et d'avoir cette manière de procéder que nous avons dans la vie religieuse, qui est perfectible certainement, hein, ça c'est tout à fait, hein, dans les différentes instances, parce que précisément on ne s'est pas choisi. Donc forcément il faut des instances pour qu'on puisse s'exprimer. Mais vous qui êtes en famille, quelles sont vos instances, quels sont vos lieux, quels sont vos temps où vous pouvez dire quelque chose et être écouté jusqu'au bout? Parce que si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas de temps et de lieu, eh bien il y a quelque chose de mortifère, il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, n'advient pas, un bien qui n'advient pas. L'autre n'arrive pas forcément à dire ce qu'il habite, à dire ce qu'il vit. Il y a ce qu'on appelle le démon muet. Vous vous rappelez dans la Bible, dans l'Évangile, Jésus qui guérit quelqu'un qui était possédé par un démon muet. Le mutisme, justement, qui empêche un bien d'advenir, empêche une unité, isole les uns des autres. Et dans ce récit de la Saint-Barthélemy, et puis il y en aurait certainement tant d'autres parmi les récits de guerre de religion, c'est un autre temps, c'est très bien, mais ça dit quelque chose, ça dit qu'au fond, l'unité des chrétiens, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis. C'est pas quelque chose qui est forcément au rendez-vous si on ne prend pas les moyens de se rencontrer et de dire ce en quoi peut-être on n'est pas d'accord, ce en quoi on diffère, ce en quoi au contraire on est en communion. Parce qu'il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord entre chrétiens. Donc, mais bon, nous avons fait des progrès. Donc déjà, rendons grâce par rapport à notre cher Grégoire XIII. Nous avons fait des progrès dans ce lien. Justement, nous avons permis que cette parole de Dieu soit au cœur même du dialogue œcuménique. Et vous savez que le Concile Vatican II, c'était la parole de Dieu qui présidait le Concile. Notre frère Samuel nous a mis la parole de Dieu là, au pied de l'autel pour nous rappeler justement que le Concile lui-même aussi était présidé par la parole de Dieu. Donc voilà, je trouve que c'est pour nous une invitation à revisiter nos relations. Où est-ce qu'il y a des paroles entravées? Où est-ce qu'il y a des paroles qui n'adviennent pas? Où est-ce qu'il y a des moments où je n'arrive pas forcément à peut-être à me livrer intérieurement, à livrer mon intime. Et on sait très bien que le rapport à la foi, c'est un rapport à l'intime. On va demander au Seigneur cette grâce particulière, justement, dans ce dimanche de la parole, déjà de fréquenter la parole de Dieu avec peut-être plus d'assiduité, mais de la dire. De la dire et de nous laisser aussi transparaître, laisser lire. Une chose, c'est lire la parole de Dieu. Autre chose, c'est que la parole de Dieu nous lise. C'est-à-dire que la parole de Dieu vient réveiller dans le cœur l'appel comme pour les premiers apôtres. Alors oui, c'est quelque chose qui est un combat intérieur que le rapport à l'unité, que le rapport à la parole et les deux sont liés. Alors on va demander au Seigneur cette grâce particulière de revisiter dans nos relations, et singulièrement les relations familiales, c'est avec le prochain proche que c'est le plus difficile, l'expression de la parole. Parce qu'on n'ose pas dire, on ne veut pas blesser, et puis du coup les non-dits, les secrets de famille, tout ça est mortifère et tout ça... d'une manière ou d'une autre, installe une division dans la famille. Division dans l'Église. Et justement, on a besoin d'un verbe, le Verbe de Dieu, qui est la lumière du monde, et que ce Verbe de Dieu dise tout Dieu, n'a pas de pudeur, pour ainsi dire, si on peut parler ainsi, qui dise tout Dieu et qui vient rétablir l'unité entre les hommes. Et c'est parce que Dieu s'est fait Verbe, et ce Verbe s'est fait chair, que nous pouvons nous-mêmes rentrer en communion les uns avec les autres et appeler Dieu notre Père. Amen.